Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Le Figaro est un quotidien qui aime l'histoire. Il ne manque pas, dans ses colonnes, de retracer par exemple plus de 100 ans des mouvements sociaux qui ont agité les chemins de fer français, plongeant pour l'occasion dans ses propres archives. Ainsi, y lit-on que le 11 octobre 1910, les agents des chemins de fer du Nord déclenchent le premier vrai mouvement de grève générale. Leurs revendications sont liées au relèvement des salaires, à la rétroactivité des retraites, à la réglementation du travail, explique le Figaro du 11 octobre 1910. La grève durera 11 jours et sera surnommée la grève de la thune. Tous rejoignent le mouvement, les travailleurs de la voie ferrée, comme on les appelle alors, puis le personnel des gares ou encore les mécaniciens. Certains descendent dans les rues à plusieurs reprises, notamment à Paris. D'autres, comme les mécaniciens du Nord, sont plus radicaux. Ils votent la cessation complète du travail. Dès le 11 octobre, raconte cette fois la CGT, les soldats du 5e génie investissent les deux premiers dépôts entrés dans la grève, ainsi que la gare du Nord. L'armée s'installe rapidement sur tout le réseau. Le gouvernement d'Aristide Briand accentue la pression et le même jour exige la mobilisation des cheminots du réseau Nord pour une instruction de 21 jours à compter du 13 octobre. Le 18 octobre 1910, enfin, c'est le dénouement. Malgré une forte répression, le mouvement a porté ses fruits. À terme, les cheminots obtiendront des augmentations de salaire et des consolidations pour les retraites. En février 1911, les cheminots reviennent dans l'actualité en faisant valoir leurs droits au Parlement. Le Figaro ironise et titre « Sa Majesté le cheminot ». Puis le journal trouve très drôle d'écrire, je cite, « Comme il y avait un certain temps qu'on ne s'était occupé des cheminots, il a été décidé à la Chambre qu'on leur consacrerait quelques heures le mois prochain ». Le cheminot est ensuite décrit par le Figaro comme, je cite encore, « un ouvrier privilégié dont on voit les prétentions grandir et la mauvaise humeur s'exaspérer à mesure que le patronat lui montre plus d'indulgence ». Plus de 100 ans plus tard, les préjugés n'ont donc rien perdu de leur vigueur, ni le Figaro de sa superbe. La nouvelle bataille du rail qui est sur le point de s'engager nous a donné envie de vous proposer à notre tour une petite histoire sonore des grandes heures sociales du chemin de fer, une balade subjective dans nos archives de 1936 à aujourd'hui, jusqu'à la victoire. Elle est racontée par Valérie Borst.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Les voyageurs pour Montélimar, Sainte-Foy-la-Grande, Bourg-la-Reine, Poitiers, Bordeaux, Bouzan-Vexin. En voiture, s'il vous plaît, dépêchons-nous.
Ce soir, nous avons vraiment une très grande joie. Nous dédions, si vous le voulez bien, notre émission à une grande communauté française, à la grande famille de la SNCF. Derrière moi, vous voyez exactement le résumé de tous les serviteurs de la SNCF. Vous, monsieur, vous êtes
le chef mécanicien.
Vous, monsieur,
le mécanicien.
Le mécanicien. Et ce mécanicien, il arrive à l'instant même de la gare.
C'est ça.
Vous êtes descendu du train il y a combien de temps? Oui, regarde sa montre.
Ah oui, il y a trois quarts d'heure.
Il y a trois quarts d'heure.
43.
Vous arrivez d'où?
Du Havre.
Du Havre. Vous, monsieur, vous êtes
le chef de quai.
Le chef de quai.
Le visiteur de gare.
Le visiteur de gare. Vous, monsieur ?
Contrôleur de gare.
Contrôleur de gare.
Chef de train.
Chef de train. Chef de gare.
Au beau pays de Cocagne, on vient de construire un chemin de fer qui traverse la campagne entre deux rangs d'arbres verts.
Sur les fils télégraphiques se sont perchés les oiseaux et les vaches mélancoliques bouchent les passages à niveau. Pour guetter dans le lointain le panache du premier train.
Voilà qu'il arrive avec sa locomotive. On l'entend fort bien, le voilà qui vient.
Non, c'est pas lui.
Nous jurons de défendre les libertés du peuple et de fonder pour lui la justice qu'il attend. Nous jurons socialistes et communistes.
1936. C'est la victoire du Front Populaire.
Tout le monde utilise le chemin de fer, grand service public national.
Les chemins de fer français sont nationalisés. Et deux ans plus tard, c'est la naissance de la SNCF. 42 700 km de voies, 515 000 cheminots et un statut déjà remis en cause par l'État.
En 1937, il était tel que le gouvernement a créé la Société nationale des chemins de fer qui fixe le statut du rail français. Le déficit d'exploitation pour l'exercice 1938 se chiffrait à 2,5 milliards. Total, 8,6 milliards. Qu'on le veuille ou non, notre condition actuelle nous conduit à l'obligation de comprimer le volume de nos dépenses. J'ai supprimé 5,000 km de lignes ferrées. 23,000 mises à la retraite d'agents commissionnés sont prévues. J'ai estimé opportun de supprimer tout permis délivré gratuitement au titre de la faveur républicaine. Cette suppression entraîne la libération de plus de plusieurs douzaines d'employés qui, dans les bureaux de la Société nationale, consacraient hélas leurs dédaigneuses plumes à satisfaire les sollicitations de la camaraderie ou de la coutume. Il en est néanmoins qui se plaignent d'être considérés comme une catégorie de parias soumise à des brimades particulières, à des sacrifices spéciaux et supplémentaires. Il fallait mettre un peu d'ordre au guichet, c'est fait.
À Vichy, c'est au milieu des gens du rail que le maréchal a tenu à passer la fête du travail, au milieu des cheminots et des veuves de ceux qui sont tombés à leur poste, victimes des attentats terroristes ou sous les balles des mitrailleuses anglo-américaines.
1944. Pendant la guerre, la SNCF est réquisitionnée. Elle effectue des transports pour le compte de l'occupant allemand et certains cheminots entrent en résistance. C'est ce qu'on appelle la bataille du rail.
Eh bien, en arrivant à ce dépôt des Batignolles qui est situé rue Saussure, et avant de pénétrer dans la cour où sont réunis tous les ouvriers qui vont maintenant quitter le dépôt, nous sommes frappés par une image. C'est une plaque de marbre sur laquelle nous lisons les noms de 69 cheminots de ce dépôt qui ont été soit tués par les Allemands, soit qui sont morts en déportation. Car vous savez, mes chers auditeurs, quel a été le sacrifice, quelle a été l'action admirable des cheminots pendant la clandestinité, puisqu'ils ont été les héros de ce film que vous avez peut-être tous vu, La bataille du rail. Eh bien, monsieur Jacob, je crois que tous les auditeurs qui nous écoutent garde le souvenir de cette image inoubliable du chef de la résistance qui demande, pour arrêter le trafic qui profitait à ce moment-là aux Allemands, laisser tomber les feux.
Laisser tomber le feu, c'est jeter le feu qu'il y a dans le foyer à l'extérieur de façon à faire tomber la pression de la machine.
Et combien de temps faut-il pour faire remonter les feux ?
Pour faire remonter les feux, il faut un minimum de 4 heures. Et actuellement, à Batignolles, on n'a pas mis plus de 4 heures pour faire monter des machines en pression. C'est notre camarade Bretéché qui nous a annoncé la fin de la grève. Oui, tous les camarades mécaniciens chauffeurs qui habitaient dans les environs se sont présentés, se sont offerts à la feuille pour reprendre leur service immédiatement.
Bon, eh bien, on peut dire que tout est bien qui finit bien. Et puisque voici une locomotive qui est là devant nous, qui est en train de manœuvrer, cependant que les trains de banlieue sur la route de... Oh là là, il siffle très fort. Sur la route, sur la ligne plus exactement, de Paris-Cherbourg en passant par Asnières, défile là-bas, à droite à gauche, dans tous les sens, les uns sortent, les autres rentrent dans la gare Saint-Lazare, qui a repris toute son activité depuis aujourd'hui midi.
Lorsque vous êtes sur votre machine, on vous dit en route, vous ne pouvez, vous faites tout de même preuve de grand garçon, vous ne pouvez pas aller en arrière, cela n'est pas possible, ou alors vous perdez tout votre métier, et vous, comment dirais-je, un peu cet orgueil de l'homme, n'est-ce pas, cette fierté, eh bien, vous empêche de reculer. Alors vous foncez, vous allez de l'avant. Car le mécanicien doit faire son travail, veiller à la sécurité de la ligne, regarder même sur la voie à côté, car il peut y avoir un obstacle, et prévenir son camarade qui descend avec un train rapide ou un autre train en face, le prévenir, l'arrêter, il a toute la vigilance à lui, et évidemment, c'est tout son esprit, tout son corps étendu vers un seul but, une seule destinée, arriver au bout et tout complet. Et l'équipe est véritablement unie. Et l'on verra un mécanicien prendre la responsabilité sur lui de défendre son chauffeur. Car c'est un véritable lien qui unit, mieux peut-être qu'un homme et une femme, qui unit deux hommes entre eux, un mécanicien et un chauffeur.
Les cheminots de la région parisienne ont débrayé. Et après le réseau de l'Est, le premier atteint par la grève, le mouvement s'est étendu et a gagné toutes les gares et les dépôts. Gare de l'Est devant les grilles fermées. Des milliers de personnes ont attendu le départ d'un dernier train hypothétique.
1947, les cheminots entrent en grève pour une amélioration de leurs conditions de travail. Le mouvement durera 19 jours.
Et bien maintenant, je vais essayer de trouver un voyageur venant de province et voulant y retourner. C'est votre cas peut-être, monsieur ?
Exactement, monsieur. Oui.
Vous venez de quel pays ?
D'Angoulême, exactement. Je suis venu là me renseigner ce matin et on m'a dit que pour cette direction, il n'y avait rien. Je souhaiterais rentrer quand même.
Bon, ben on dit que demain le service sera intensifié, j'espère
on m'attend là-bas, alors je dis bonjour à ma femme si elle se trouve.
Bon, c'est très bien, vous rentrerez certainement demain. Au revoir, monsieur.
Eh bien, messieurs, il n'y aura tout au moins pas de discussion sur le choix du sujet de ce soir. Ce sera évidemment la grève des cheminots. Nous vous demanderons donc de nous dire ce qu'il faut penser de la situation telle qu'elle se présente actuellement.
Nous sommes maintenant non plus dans la période de résistance à l'oppresseur, nous sommes dans la période de reconstruction du pays et de redressement de notre économie. Ils doivent comprendre dans ces conditions que cette sollicitude gouvernementale implique pour eux un certain nombre d'obligations et de devoirs. Et le premier de ces devoirs, c'est de remettre en marche la machine parce que le pays tout entier voit actuellement sa vie économique et sa vie tout court suspendue à la grève entreprise par les cheminots.
André Carrel.
Eh bien alors là, vous avez une drôle de façon de poser le problème. Je pense que le gouvernement, en ayant de la sollicitude pour les cheminots, ferait mieux de discuter de leurs revendications et de leur donner satisfaction.
Le gouvernement a déjà témoigné de cette sollicitude depuis plus d'un an en accordant à l'ensemble des cheminots des relèvements de salaire qui sont proportionnellement aux autres professions beaucoup plus élevés.
Comment ?
Puisque ça atteint 100% des salaires de 1945.
6 000 francs par mois, vous trouvez que c'est un salaire élevé, vous, Noguer ? Bien, vous n'êtes pas difficile. Demandez un peu au dépôt de Charolais ce qu'ils en pensent aux cheminots.
Sur un salaire de 85 à 90 000 francs, ça commence à paraître, surtout quand on fait la grève deux fois dans le mois, presque trois, puisqu'on a fait la dernière le 28 février.
Est-ce que vous avez déjà pris des vacances ?
Non, nous n'avons pas pris de vacances puisque nous ne pouvons pas. C'est impossible.
Et vous serez amené à faire d'autres actions syndicales encore ?
Obligatoirement, oui. Parce que maintenant qu'on a attaqué, on peut dire ferme. Il ne faut plus s'arrêter maintenant. Maintenant, c'est marche ou crève.
Qu'est-ce que c'est pour vous être de gauche ?
C'est l'envers de la droite. Exactement. C'est comme dans le chemin de fer, il y a deux classes. Les premières, les deuxièmes. Il y a un truc inadmissible. Pourquoi avoir deux classes ? C'est vrai. Quand tout le monde naît, tout le monde est égal. Tout le monde naît dans la même tenue. Il n'y en a que deux pour moi des classes en France. Il y a la classe de ceux qui travaillent, quel que soit leur travail, et la classe de ceux qui profitent de ceux qui travaillent, c'est tout.
1953, le gouvernement veut modifier le régime des retraites des fonctionnaires. Les cheminots font grève une nouvelle fois. Et à la fin de l'été, le gouvernement abandonne son projet de réforme.
Je me trouve actuellement à la gare du Mans. À la gare du Mans où les premiers trains venant de l'ouest de la France commencent à déverser les premiers flots des derniers vacanciers qui reviennent.
Quand je suis dans le train, ça roule. Je mets les pieds sur les coussins, tout comme font les rupins.
Madame, vous arrivez-vous par le train de l'Orient ?
Oui.
Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde ?
Oh oui, c'était plein. Même dans les wagons étaient pleins, dans les couloirs, partout. Même dans les cabinets.
Et vous aviez pris la précaution, bien sûr, de louer ?
Ah oui, on avait loué.
Donc vous étiez assise ?
On était assise,
c'est
oui.
Ça. Et parlez-nous un peu de vos vacances.
Oh, les vacances se sont très bien passées parce qu'on s'est d'abord beaucoup reposé. On a eu du soleil, mais aussi de l'eau. Ça, on a eu de
un
l'eau.
Peu plus d'eau peut-être que de soleil.
Ah oui, mais on a eu du soleil.
À dimanche, n'oublie pas la laine pour le chandail. Oh, surtout ne prends pas froid. Au revoir. Dans mon village, en Normandie, quand on voyage, c'est très gentil. Il existe un petit train interurbain. Sa petite machine, le pouce en devant, il s'achemine tout doucement, s'arrêtant au hasard entre les gares.
Il est exactement minuit et nous sommes actuellement dans le train Strasbourg-Paris. Monsieur Prial, nous roulons à combien ?
Pour l'instant, nous roulons presque à 110.
Et que pense un cheminot la nuit de Noël ?
Ah, il pense qu'il serait tout de même mieux chez lui.
Vous avez des enfants, vous êtes marié ?
Oui, j'ai deux enfants, deux garçons.
De quel âge ?
De 8 et 10 ans.
Comme nous arrivons demain à 6h15, je pense qu'on va, vous allez passer Noël en famille, non ?
Oh, non, certainement pas.
Pourquoi ?
Je repars travailler demain soir.
C'est-à-dire que vous allez dormir toute la journée, alors pour vous, pas de Noël ?
Non, pas de Noël, on dort toute la journée, il faut bien pour repartir.
Et vous êtes à la SNCF depuis combien d'années ?
Je suis rentré en 1942, comme apprenti.
Et en 21 ans, combien de Noël passés à la maison?
Trois au maximum.
Depuis longtemps, les agents de conduite se battent pour l'amélioration de leurs conditions de travail qui affectent leur santé. Il y a quand même deux agents de conduite décédés, cinq qui sont hospitalisés à la suite de malaise. Leur cas est sérieux. Une vive émotion s'est manifestée parmi les roulants de Dijon et de la région, qui attribuent en partie cet état de fait à leurs conditions de travail particulières. Longues amplitudes de leur journée de travail, pouvant atteindre 14 heures, y compris la nuit. Repas imposés à toute heure du jour et de la nuit dans une atmosphère bruyante, locomotive non insonorisée. Difficulté pour prendre un repos convenable dans les dépôts extérieurs. Asservissement des conducteurs par le système de veille automatique VACMA qui occasionne une tension nerveuse extrême, etc.
1971, les conditions des cheminots ne s'améliorent pas. Après un mois de grève, ils reprennent le travail sans avoir obtenu de concession.
Cela fait 11 ans que je travaille à la SNCF. Enfin, c'est pas tellement mon désir, mais enfin, il n'y avait pas d'autre solution. Alors je suis rentré ici comme cheminot. Alors cheminot débutant, vraiment le débutant, l'échelle 2, hein, c'est-à-dire caler les wagons. J'ai fait ça pendant 6 mois, parce que vraiment c'était un métier, c'est un travail très dur. Le wagon descend d'une butte, vous avez un sabot en enrayeur qui arrête le wagon, et il faut faire ça à chaque wagon si vous voulez l'arrêter pour pas qu'il se tamponne les uns dans les autres. Et il faut faire attention à chaque instant, à chaque moment. Alors après j'ai passé un examen. Examen pour rentrer à la manutention. Enfin, c'était quand même un peu moins pénible parce qu'on était quand même sous les quais, on était quand même à l'abri. Et ça, point de vue vie familiale, on n'en a pas tellement parce que le matin, il faut se lever de bonne heure. L'après-midi, on se retrouve seul à la maison parce que la femme travaille, évidemment. Et le soir, on est au travail. Quand on est de soirée, on se remet au travail. On rentre tard, tout le monde dort. Hein. Et puis la nuit, ben, c'est pas toujours... Question de vie familiale, c'est pas le rêve. Peut-être que les gens nous critiquent, ça arrive. Peut-être que les gens, à force, ils se lassent, ils disent que les cheminots sont tout le temps en grève. Mais enfin, moi, je crois qu'il faut dire que les cheminots, s'ils sont en grève, c'est pas pour leur plaisir.
TGV 001. Rail. Air. Un turbo-train.
1986, 29 jours de grève à la SNCF. Les cheminots obtiennent le retrait d'un projet de grille des salaires au mérite.
Les Français ont le droit de savoir pourquoi ils payent. Ils payent pour la SNCF environ 33 milliards de francs, la moitié de l'impôt sur les sociétés, le quart de l'impôt sur les revenus. Voici ce que déclarait ce matin Jacques Doufiag sur notre antenne, le ministre du Transport, dans l'émission de Philippe Calani. Et Michel Garibald, le ministre, veut ouvrir une discussion sur l'actuel statut des cheminots de la SNCF.
Oui, Jacques Doufiag a jeté un véritable pavé dans la mare en partant en guerre contre le statut des cheminots. Parce que celui-ci comporte à ses yeux des dispositions qui s'expliquaient lorsqu'elles ont été prises en raison des obligations particulières qui s'imposent au chemin de fer, mais qui ont été maintenues alors qu'on est à l'époque du TGV et non plus à celle des escarbilles de la machine à vapeur. La retraite à 50 ans apparaît donc comme un privilège, tout comme certaines primes ou indemnités ou le mode de calcul des congés de récupération. Et ceci d'autant que la SNCF perd de l'argent et qu'en définitive, c'est le contribuable qui paye l'addition finale.
Écoutez, on est extrêmement choqués, notamment la comparaison... des escarbilles, on ne voit pas très bien ce que ça vient faire là-dedans. Évidemment, il est moins fatigant pour nous, physiquement, de conduire une machine actuellement, mais nerveusement, c'est tout à fait autre chose, quand même. D'autant plus qu'il y a la vitesse qui vient s'ajouter à ça. Au temps de la vapeur, on roulait à 80, 75 en marchandises, on roulait à 120 en voyageurs. Maintenant, on roule à 140, 160, voire 270 avec le TGV.
Vous pensez que physiquement, vous êtes aussi fatigué aujourd'hui après un long trajet que votre père ou
mon grand-père était mécanicien.
Votre grand-père, il y a une cinquantaine d'années.
Oui, parce que nerveusement, c'est beaucoup plus éprouvant.
Mais bon, je ne sais pas. Vous avez l'impression que les tarifs actuellement pratiqués par la SNCF sont chers ou pas chers?
Ils sont justes.
Manifestement, ces gens-là nous prennent pour des billes. Ils ont tort. On ne méprise pas à ce point la quasi-totalité d'une entreprise en grève. Ces propositions sont insuffisantes, nous n'en voulons pas. Pas plus que nous n'acceptons les propos visant à nous montrer comme des privilégiés aux yeux de l'opinion publique. Non Chirac, non Seguin, non Doufiag. Le travail n'est pas un luxe, c'est un droit.
C'est même l'un des premiers des droits de l'homme. Cette stratégie visant à opposer une partie de la population à une autre est méprisable. C'est pourquoi nous en appelons aux chômeurs et aux travailleurs du privé. Ne vous laissez pas entraîner sur ce terrain-là. Les responsables de votre situation, ce ne sont pas les employés du secteur public et nationalisé, ce sont les dirigeants politiques et économiques de ce pays. Le syndicat CFDT de Grenoble vous demande de tenir bon et vous propose de continuer la grève jusqu'à demain à midi.
En 1995, le plan Juppé prévoit la fin des régimes spéciaux de retraite des cheminots. Après 3 semaines de grève, le gouvernement recule.
Vous êtes cheminot ?
Ouais, trahison ! C'est fait baiser, là ! La trahison, trahison. Comme en 86, mais plus cool, là.
Alors c'est la dernière, là ?
Oh ! Disons que Juppé a cédé sur ce qui concerne la SNCF, sur le retrait, non ?
Conducteur, train de marchandises, train de voyageurs, toutes sortes de trains, aussi bien la banlieue que les grandes lignes, la nuit, le jour, les jours fériés, les jours de semaine, le samedi, le dimanche.
Qu'est-ce qui est difficile dans votre métier ?
Le stress. Les décalages horaires, enfin, pas comme les aviateurs, mais le décalage au niveau des prises de service.
La solitude sur les engins moteurs.
Les heures de repas qui sont jamais à la même heure.
Et l'image des cheminots feignants et alcooliques, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oh, c'est des préjugés, je pense que ça commence à devenir dépassé. On s'aperçoit que
c'est dans les livres, ça. C'est fini, ça, c'est terminé. Il est impossible de conduire un train si on n'est pas en bonne santé. Est-ce que vous aimez votre métier ?
Bien sûr.
Complètement, oui.
Bien sûr.
Mais les SNCF commencent à me casser sérieusement les pieds, et les employés de la SNCF en particulier. Mais c'est pas la peine de tenir la population française en otage pendant une semaine. Je veux bien compatir avec la SNCF, je suis pas prêt à payer ce prix-là. On paye déjà assez cher pour eux sur notre feuille d'impôt, donc ça suffit comme ça.
En gros, on va travailler plus et on va gagner moins. Et ça, je suis pas d'accord. Et la CGT est pas d'accord. Et les cheminots sont pas d'accord.
Je peux pas croire que vous êtes à ce point inconscient de la réalité. Un cheminot, ça a gagné 5 ans d'espérance de vie sur les 20 dernières années. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tant mieux ! Eh bien, si on vit plus longtemps, et si vous voulez que vos retraites soient payées, il faut qu'on cotise plus longtemps. C'est pas marrant à entendre, c'est pas marrant à dire, mais il n'y a pas un pays au monde qui fait différemment. Vous pouvez chanter tout ce que vous voulez.
Bah oui, alors c'est la rue qui va parler, hein. On descendra dans la rue bientôt, et puis voilà, de toute façon, hein. Ça s'est toujours passé comme ça, et à chaque fois on a fait plier tous les premiers ministres, donc de toute façon ça continuera comme ça.
C'est la rue qui va faire plier. Je vous dis quelque chose, la rue elle fera pas plier, parce que nous sommes dans une démocratie. Le droit de grève, c'est un droit qui est reconnu. Mais je vais vous dire quelque chose. Le chantage à la rue, ça ne marchera pas. Et ça montera une partie des Français contre les cheminots. Et puis, je vais vous dire une chose. Sur les 40 années, je ne céderai pas. En revanche, je vous l'ai dit, il y a beaucoup à négocier. Et vous devriez quand même être plutôt heureux que pour une fois, il y a un chef de l'État qui s'occupe de vous. Ça me semble quand même plus positif que dire c'est la rue qui va parler.
Il a l'air de dire, le monsieur, que les cheminots ne bossent pas. C'est ça que vous dites, non ?
Bah, c'est pareil qu'on n'en fout pas la rame.
C'est ça. Vous venez de dire que les cheminots ne bossent pas. Mais on a suffisamment payé pour partir à 55 ans, ne vous croyez pas ?
Ce sont les autres qui payent pour vous, soyez honnête.
Les autres payent pour
vous. Mais bien sûr que ce sont les autres qui payent pour vous.
Ça c'est du sarkozisme à fond.
Mais ça, c'est
très bien, continuer comme
mais
ça.
Mais moi, vous voyez, j'ai encore 2 ans à faire. Mais j'espère que je vais partir à 55.
Non,
mais j'en ai rien à foutre.
Ça fait 35 ans que je cotise, donc.
Et
rigole,
monsieur. Et les autres, enfin ?
Vous dites que je suis un privilégié ?
Oui, vous êtes.
Vous rigolez ? Je suis un privilégié parce que je suis rentré au chemin de fer en choisissant moins de salaire, une cotisation plus forte et partir à 55 ans,
c'est ça.
Privilégié.
Manifestation anti-grève, 18 novembre 2007.
C'est la rue qui gouverne.
2007. Nouvelle attaque du régime de retraite des cheminots. Nouvelle grève de 10 jours. Le gouvernement Sarkozy impose l'allongement de la durée des cotisations.
Alors les slogans que vous disiez tout à l'heure, c'était quoi ? Aujourd'hui dans la rue ?
Demain on continue. C'est-à-dire que demain on continue la grève. Nous on est cheminots. Pour nous c'est comme 95. Hein. retrait du plan Fillon, j'allais dire du plan Juppé, lapsus révélateur. Et donc, comme en 95, on ne pense pas que ce sera une journée d'action qui fera reculer le gouvernement. D'autant plus qu'il nous a méprisés, du genre « la rue, c'est pas la rue qui décide ». L'arrogance, ça a ses limites, et ça a la limite de déclencher dans la population une indignation devant des plans qui sont de fait dirigés contre tout le monde.
2018, la SNCF fête ses 80 ans.
Regardez autour de vous.
Le gouvernement Philippe veut mettre un terme au statut des cheminots.
Les gares fermées.
Une grève de 36 jours sur 3 mois se prépare.
Les mères inquiètent sur le sort de leurs enfants en vacances. La grève ne sert à rien. Parlons clair, elle ne sert que les extrémistes qui ne visent qu'à abattre le régime.
Aujourd'hui, il y a des discussions sur l'avenir de la SNCF, sur le statut, avec l'idée très simple que, de toute façon, la suppression du statut ne s'appliquera qu'aux nouveaux cheminots, pas aux anciens, donc ça ne fera absolument aucun perdant. Donc pourquoi lancer immédiatement une grève qui, pour le coup, va pénaliser lourdement les usagers? Et moi, je pense à tous ces usagers du train qui se disent « Mais comment est-ce qu'on va faire dans les semaines qui viennent ?» alors même que les discussions ne sont pas encore achevées. Moi, je trouve que ça, ce sont des réactions datées. Cette idée de faire grève pour menacer.
Nous ne cherchons pas à gagner une épreuve de force. Mais l'État républicain a le devoir de dire non à la grève.
Mais alors qu'est-ce qu'on attend? On passe ou on ne passe pas?
Mais vous voyez bien, cher monsieur, que le passage à niveau est fermé.
Oui, eh bien, j'ai pas de veine, parce que les passages à niveau sont toujours fermés quand j'arrive.
Ah, qu'est-ce que vous voulez, ça, monsieur? C'est une question de chance. Le passage à niveau, c'est comme la vie. On attend, ou bien alors on passe tout de suite. On est une 8 cylindres, ou un simple taco. Au but qu'on veut atteindre, on n'arrive pas plus tôt. On passe comme une torpille, ou qu'on se traîne comme un veau. On se retrouve en famille devant le passage à niveau. Il y a toujours un passage à niveau qui barre la route, ça vous dégoûte. On arrive ou trop tard ou trop tôt. On passe tout de suite où l'on fait le poireau.
C'était La bataille du rail, un reportage dans les archives de l'INA proposé par Valérie Borst, réalisé par Cécile Lafont. Merci à Clary Monac qui est documentaliste à l'INA. Cette émission a été proposée pour la première fois le 21 mars 2018. Aurélie Marcès, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Abdel Rahim Chekroun, c'est notre stagiaire. Merci aussi à François Connac qui s'est occupé de remettre cette émission en boîte, comme on dit chez nous.
On arrive ou trop tard ou trop tôt. On passe tout de suite où l'on fait le poireau. La barrière est en bas ou en haut. Ceux qui ont de la veine passent sans peine. Les pas vernis restent le bec dans l'eau. Il y a toujours un passage à niveau.
La barrière est en bas.
La barrière est en bas
ou en haut. Il y a toujours un passage à niveau.